VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Tatiana Mosso et Idrissa Seydoudia en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 2 mai au sommaire ce soir.
Kinshasa et la République démocratique du Congo. Des milliers de personnes rendent hommage au roi de la rumba congolaise, Papa Wemba.
Et de l'autre côté du fleuve Congo, l'annonce du nouveau gouvernement à Brazzaville, diversement appréciée.
Moi, je pense qu'il faut qu'on apprécie à sa juste valeur le courage du chef de l'État quand il a pu se séparer d'un certain nombre de compagnons.
105 tonnes d'ivoire brûlées en public à Nairobi au Kenya, c'est la plus grosse incinération de défense d'éléphants jamais organisée. L'occasion aussi d'alerter sur les situations des rhinocéros.
Dans les 6 derniers mois, on a perdu 5 rhinocéros noirs. Donc quand vous pensez qu'il n'en reste que 600 au Kenya, c'est quand même énorme.
Et en Syrie, voyage éclair du secrétaire d'État américain John Kerry à Genève et appel du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon à étendre le cessez-le-feu à Alep. Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Nous sommes à 24 heures de la demi-finale, retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et l'Atlético Madrid. Mais avant, le journal sur VO Afrique.
Kinshasa et la République démocratique du Congo rendent hommage à Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, a été décoré à titre posthume par le président Joseph Kabila, tandis que plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées devant le Parlement où le corps du musicien a été exposé. Les détails avec Nani Talani.
C'est dans la matinée que le chef de l'État Joseph Kabila a élevé à titre posthume Papa Wemba au rang de grand officier de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour les mérites, les loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple, le siège du Parlement, décoré pour le deuil. À l'entrée, sur l'étoile géante à l'effigie du musicien, on pouvait lire « Le Congo orphelin ». Dans le hall principal, un énorme chapeau rouge, réplique de celui que le chanteur portait lors de sa mort, faisait office de toit de la chapelle ardente à l'extrémité d'un tapis rouge où avait été installé le cercueil. Derrière, trônait une effigie grandeur nature en tissu de la star habillée comme le jour de sa dernière prestation, avant qu'il ne s'effondre sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Femua, à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 24 avril dernier. Diverses personnalités politiques et artistiques de la RDC ou d'ailleurs ont rendu hommage aux disparus dans le hall du Parlement, alors qu'une foule de plusieurs milliers de personnes était maintenue à l'extérieur et que la cérémonie était retransmise à la télévision nationale. Les obsèques de Papa Wemba vont se poursuivre ce mardi à son domicile. La star congolaise sera inhumée mercredi à Kinshasa.
Au Niger, visite des ministres français et allemands des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier. Ils doivent notamment rencontrer le président nigérien Mahamadou Issoufou, récemment réélu lors d'un scrutin contesté, et des membres de son gouvernement.
La Côte d'Ivoire veut mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ses secteurs clés dans l'espoir de faire baisser les prix, a annoncé le président Alassane Ouattara. Les 4 confédérations syndicales de travailleurs du pays avaient toutes dénoncé le malaise provoqué par la hausse du coût de l'électricité, chiffré à 40% sur 5 ans par l'Union fédérale des consommateurs.
Intempérie au Kenya, le bilan s'alourdit. Au moins 21 personnes ont péri dans l'effondrement d'un immeuble vendredi soir à Nairobi, selon un nouveau bilan paru ce lundi. Nathalie Barge.
4 nouveaux cadavres ont été récupérés cette nuit et une personne a succombé à ses blessures à l'hôpital, a déclaré le responsable de l'unité gouvernementale de gestion des catastrophes, Pius Massai. Un précédent bilan dimanche faisait état de 16 morts. La Croix-Rouge kényane a dénombré plus de 60 personnes manquant à l'appel, faisant craindre un bilan définitif bien plus élevé. Au total, au moins 28 personnes ont péri à Nairobi depuis vendredi à cause des pluies torrentielles qui sont à l'origine de l'effondrement de l'immeuble dans le nord-est de la capitale kényane. Le bâtiment construit près d'une rivière avait été frappé d'un arrêté de démolition, mais cette décision n'a pas été respectée. Le propriétaire de l'immeuble s'est rendu à la police dimanche. Samedi, alors qu'il visitait le site, le président kényan Uhuru Kenyatta avait ordonné à la police d'agir immédiatement pour identifier et arrêter les propriétaires de l'immeuble qui n'ont pas tenu compte des directives de l'Autorité nationale de la construction, a-t-il dit. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières années au Kenya, où les normes de construction ne sont pas souvent respectées.
Le Sénégal et les États-Unis ont signé aujourd'hui à Dakar un accord de défense permettant la présence permanente de militaires américains dans le pays pour notamment lutter contre la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. L'accord a été signé par le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, et l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, James Zumwalt, en présence du ministre sénégalais de la Défense, Augustin Tine.
Sénégal, toujours l'ouverture aujourd'hui, celle de la 12e édition du Dakar, une des plus importantes manifestations des arts visuels en Afrique, organisée tous les deux ans au Sénégal, et c'est jusqu'au 3 juin.
Le Soudan a rappelé son droit de souveraineté sur deux territoires frontaliers au bord de la mer Rouge, administrés par l'Égypte, mais également revendiqués par Khartoum. Il s'agit d'un vieux contentieux entre les deux pays voisins. Khartoum multiplie depuis avril les revendications alors que son voisin égyptien a accepté de rétrocéder deux îlots de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite, une décision qui a suscité un vent de contestation dans les rues de la capitale égyptienne.
Et la Cour constitutionnelle du Soudan a ordonné la levée d'une interdiction de publication imposée il y a 5 mois à un des plus importants quotidiens indépendants du pays, Al-Tayar. Le puissant service national du renseignement et de la sécurité soudanais avait suspendu la publication du quotidien en décembre après une série d'éditoriaux critiquant le gouvernement pour la baisse des subventions sur les carburants et l'électricité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Alep, en Syrie, le cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 février est désormais un lointain souvenir. Les pourparlers de paix à Genève n'avancent pas. Les détails avec Maïli Segel.
La situation en Syrie est à bien des égards hors de contrôle, a déclaré John Kerry, le secrétaire d'État américain, devant la presse à Genève. Ceci après sa rencontre avec l'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura. Il s'est également entretenu au téléphone avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Ils ont convenu de prendre de nouvelles mesures, dont l'une serait la préparation d'une prochaine réunion. Alliée du président syrien Bachar al-Assad, la Russie a fait état dimanche de négociations actives pour faire taire les armes à Alep. John Kerry a ajouté que tant le régime que l'opposition ont violé le cessez-le-feu. Plus de 250 civils ont péri depuis la reprise des violences à Alep le 22 avril. La Russie et les États-Unis enverront donc plus de personnel à Genève dans les prochaines semaines pour travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de parvenir à un nouvel accord. Le troisième round de négociations qui avait commencé le 13 avril s'est achevé le 27 avril à Genève.
Calme ou tendu aujourd'hui à Bagdad après la prise d'assaut de la zone verte et l'occupation temporaire du Parlement samedi. Les manifestants promettent cependant de revenir vendredi si les députés n'approuvent pas un nouveau gouvernement de technocrates censé s'attaquer à une corruption endémique.
La police californienne est au cœur d'un scandale. Après l'officier de San Francisco, c'est au tour d'un haut responsable de la police de Los Angeles d'être accusé de racisme dans ses correspondances. C'est ce qu'a annoncé le bureau du shérif. Le Point avec Morgan Guiriec.
Et c'est dans des courriels avec un autre policier que Tom Angel, second du shérif de Los Angeles, a écrit des remarques racistes à l'écart des musulmans, des noirs, des mexicains et des femmes entre 2012 et 2013. Dans l'un des messages dont le Los Angeles Times a obtenu une copie, l'officier fait par exemple suivre une plaisanterie douteuse. Je cite « Tout le monde fait mine de se demander pourquoi les musulmans se font sauter, mais il faut se rendre à l'évidence. Pas de côte de porc, pas de femmes nues, pas de foot. Ils ont plus d'une belle-mère, leurs femmes sont encore plus mauvaises que leur âne, et après, on leur dit qu'après la mort, ça s'arrange. » Cette correspondance à usage interne a bien évidemment été jugée déplacée, antiprofessionnelle et inquiétante. Et la démission de Tom Angel, hier, a été acceptée par son shérif. La semaine dernière, 3 policiers de San Francisco avaient dû démissionner après la publication de leur correspondance où ils baptisaient des membres de minorités, de barbares et d'animaux sauvages.
L'opposition au Venezuela a déposé lundi auprès du Conseil national électoral 1,85 million de signatures en faveur d'un référendum pour évoquer le président socialiste Nicolas Maduro, a annoncé son porte-parole Jesús Torrealba.
En 2015, une année de sanglants attentats djihadistes en France, les faits anti-musulmans ont triplé et les préjugés antisémites persistaient, a déploré lundi la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Les plaintes déposées pour des menaces ou des actes à caractère raciste, antisémite et anti-musulmans sont en hausse conséquente. C'est ce qu'a annoncé cette commission. Un sommet jamais atteint, note la commission. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a sonné la fin du monopole de la distribution de l'eau et de l'électricité. Ce secteur détenu exclusivement par la compagnie ivoirienne d'électricité devra désormais être concurrentiel. Pour réduire les prix, une préoccupation essentielle des contribuables. En juin dernier, le prix de l'électricité a augmenté de 16%, mais en janvier, les clients ont vu le prix augmenter de près de 40%. La demande ne cesse de croître chaque année d'environ 10%, mais la libéralisation du secteur s'avère une mission périlleuse, car le contrat de monopole est censé expirer en 2020. Le président kényan Uhuru Kenyatta a plaidé pour l'interdiction totale du commerce de l'ivoire. Il a estimé que ce commerce tue nos éléphants et notre patrimoine naturel. C'était samedi pendant la destruction de 105 tonnes d'ivoire kényan dans le parc national de Nairobi. Le Gabonais Ali Bongo Ondimba s'était joint à son homologue kényan pour la circonstance. Et le géant saoudien de la construction Bin Laden Group a licencié 77 000 travailleurs étrangers. Cette société familiale, créée en 1931 par le père d'Oussama Bin Laden, employait au total quelques 200 000 travailleurs étrangers dans le royaume saoudien, notamment des Égyptiens. Le quotidien algérien Al-Watan a fait savoir que 50 000 travailleurs refusaient de quitter le pays car leur salaire n'était pas payé depuis plus de 4 mois.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Idrissa, bonsoir à tous.
Demi-finale retour dès demain de la Ligue des champions en Europe.
Oui, le Bayern Munich contre l'Atlético Madrid, 1-0 pour les Madrilènes à l'aller. Ce sera ce mardi donc le retour. Le Real Madrid face à Manchester City, 0-0 à l'aller. Le Bayern Munich et le Real Madrid, réduits au silence à l'aller, devront retrouver leur puissance de feu en attaque contre leurs adversaires respectifs.
Championnat d'Algérie, USM est champion.
Oui, à 3 journées de la fin du championnat, l'USM Alger victorieuse 3-0 contre l'ASM Oran. C'était samedi, lors de la 27e journée, a été donc sacré champion d'Algérie de football. C'est son 7e sacre de l'histoire. L'USM compte à ce jour 14 points d'avance sur ses concurrents et ne peut donc plus être rattrapé.
En première ligue, Leicester continue son épopée.
Oui, Leicester a tenu hier en échec Manchester United, 1-0. Et son attaquant Jamie Vardy a été élu joueur de l'année par l'association des journalistes sportifs du football en récompense de sa contribution à la réussite de son club en route pour un sacre historique. Il faut dire que Leicester, à la lutte pour le maintien l'an passé, sera sacré champion d'Angleterre dès ce soir si son poursuivant Tottenham ne bat pas Chelsea en clôture de la 36e journée.
Et en rugby ?
Oui, Cornelius Nelly-Smith, ancien capitaine puis sélectionneur des Springboks d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, est décédé d'une crise cardiaque ce lundi au Cap. L'annonce a été faite par la Fédération sud-africaine de rugby. Il avait 81 ans.
NBA, championnat de basketball nord-américain.
Eh bien, Miami qui a battu dimanche Charlotte 106-73 et Toronto qui s'est imposé face à Indiana 89-84 se sont qualifiés pour le deuxième tour des playoffs de la NBA. Les Floridiens réalisent ainsi une grosse performance en revenant dans la série puis en s'imposant lors du match 7 chez eux alors qu'ils avaient été au bord de l'élimination, menés 3-2. par de surprenants Hornets. Dans l'autre match du premier tour des playoffs, Toronto s'est imposé à domicile face à Indiana 89-84. Une courte victoire pour les Raptors de Dwayne Casey. Toronto rencontrera dès ce mardi Miami.
Merci, Bagassekoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mosso et Idrissa Seydou Dia en votre compagnie, place au dossier du jour.
La levée du corps de l'artiste musicien Papa Wemba, mort le 24 avril dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a eu lieu lundi dans la matinée à Kinshasa. Des artistes congolais ont salué l'immense talent de cet artiste aux différentes facettes. L'ancien patron de l'orchestre Viva la Musica était dans le théâtre, le cinéma et la peinture. Un reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Cérémonie officielle terminée, place au public de rendre hommage à Papa Wemba. L'artiste et musicien de la diaspora, Désir Mbwesé, reconnaît que Papa Wemba s'est retrouvé au-dessus de la mêlée des polémiques entre musiciens ces 20 dernières années.
Personnellement, moi, ça m'étonne pas du tout. Je peux dire qu'il le mérite bien. Pourquoi? Parce que Papa Wemba, c'est un artiste qui s'est démarqué d'abord ici, chez soi, donc dans notre pays, avant de s'envoler pour d'autres continents. Papa Wemba, on a toujours dit ça depuis dans le passé. C'est un artiste vraiment qui défend convenablement la couleur de notre drapeau. Il défend correctement la culture congolaise. Mais, comme vous le savez, il y a la génération actuelle là, avec le phénomène crèche, avec le phénomène polémique qui fait un peu la confusion de la musique. Mais au moins, lui, il a toujours gardé sa peau pour être toujours au-dessus de la mêlée. C'est pourquoi il n'essaie pas vraiment d'entrer en profondeur dans les polémiques. Et pour moi, je peux dire que bravo l'artiste, et il le mérite aussi bien.
Valentin Mitendo, homme de culture, pense que le travail de cet artiste musicien a été un fil conducteur pour que la culture de la RDC soit connue en dehors du pays.
Je crois qu'il faut, depuis ma barre, commencer par reconnaître l'immensité de l'artiste, reconnaître le travail important, le travail culturel, musical, que l'artiste a réalisé au pays, en Afrique et dans le monde. Et son travail a été un véritable fil conducteur pour que la culture de ce pays soit connue ailleurs. Maintenant que nous nous retrouvons devant un fait où l'Éternel des armées a décidé que son parcours s'arrête, les artistes de la compagnie théâtre des intrigants, les membres de l'Institut international du théâtre, les artistes qui ont été primés, décorés, élevés au rang de mérite national de la culture et des arts en date du 29 décembre de l'année passée, je crois que tous ont croisé le doigt et partagent la douleur qui afflige la famille artistique et culturelle de la République démocratique du Congo, la famille biologique de Papa Wemba et de toute sa famille.
La dépouille mortelle a été exposée pendant quelques heures au village Molokai, à Matongé, quartier où Papa Wemba a vécu et fait ses débuts en musique. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Congo-Brazzaville, après l'annonce du nouveau gouvernement, les populations réagissent différemment. Si certains voient dans cette nouvelle équipe une vraie rupture avec le passé, d'autres, par contre, estiment que le Premier ministre et les membres de son gouvernement n'ont pas les mains assez libres pour faire leur travail. De Brazzaville, la correspondance de Nguela Ngoussou.
Les Congolais réagissent différemment à ce nouveau gouvernement. Le professeur Makita, analyste politique et enseignant à l'université Marien Ngouabi, pense que l'heure de la rupture a réellement sonné.
Dans notre pays, on a toujours dit qu'il y avait des membres du gouvernement qui étaient là depuis toujours. Moi, je pense qu'il faut qu'on apprécie à sa juste valeur le courage du chef de l'État quand il a pu se séparer d'un certain nombre de compagnons dont on sait qu'ils sont compétents, qu'ils l'ont accompagné dans beaucoup de moments difficiles. Et c'est ça aussi, la rupture. Et je pense que les Congolais doivent regarder ça positivement. Nous espérons tous que les jeunes, qui certainement pêcheront par leur manque d'expérience, mais vont vite apprendre, hein, parce qu'il n'y a pas de temps à l'amateurisme.
Certains Congolais pensent que le Premier ministre Raymond Mwamba n'est qu'un faire-valoir qui ne maîtrise même pas les ministres qui viennent d'être nommés.
Pourtant, c'est bien dit que sur proposition du Premier ministre, parce que c'est simplement maquillé. Hein, le véritable faiseur des ministres, c'est le chef de l'État. Et je crains qu'il ne soit pas à la hauteur de son travail, parce qu'il n'est pas du tout celui-là qui sera respecté, qui sera craint du fait que c'est lui leur chef. Sinon, ça veut dire qu'on reviendra sur la même chose. On ne va plus constater la rupture.
Pour les syndicalistes, il faut voir ce gouvernement à l'œuvre avant de le juger. Serge Kalat est syndicaliste dans l'enseignement.
Ce qui nous concerne personnellement en tant qu'enseignant, ce remaniement ne nous a pas trop bousculé, parce que pour nous, c'est une continuité. Le gouvernement ne dira pas que nous ne connaissons pas ces dossiers. Le ministre en charge des questions d'enseignement primaire et secondaire est revenu. Il a bien nos dossiers, nos revendications. On les poursuit là où nous les avons arrêtés. Donc si on peut faire la grève, on n'a pas de raison à donner, parce que c'est le même ministre, ils connaissent les dossiers. Le Premier ministre qui est là, il est nouveau, mais le président est le même, le ministre est le même.
Les défis à relever sont énormes. Nombreux pensent qu'il faut commencer par le dossier du pool. Didier Clotaire-Woutindi.
La priorité sera plus à la paix et à la sécurité, parce qu'on sort des élections présidentielles. On sait ce qu'on a connu, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de paix et de sécurité dans le pays. Donc je crois que ce gouvernement doit d'abord s'appuyer sur ça.
Un point de vue partagé par le professeur Makita.
Pour ce qui est du pôle, non, les bombardements indiscriminés, l'infraction est individuelle, mais la peine aussi est individuelle. Il ne faut pas que des actions militaires de masse puissent être perpétrées dans le pôle.
Les Congolais donnent un sursis de 100 jours au tout premier gouvernement de la Nouvelle République pour le juger à l'œuvre. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VO Afrique.
Malgré l'existence d'une loi qui punit le harcèlement sexuel au Bénin, le phénomène prend de l'ampleur et atteint tous les secteurs, en milieu scolaire, estudiantin, professionnel et même domestique. Entrons dans les réalités du phénomène au Bénin à travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Au niveau des centres d'aide, d'écoute et de conseils juridiques, les membres sont parfois dépassés par la fréquence de ces plaintes qui mettent toujours en cause un homme se servant de sa position hiérarchique pour brimer.
Les plaintes qu'on a eues jusqu'à présent, que ce soit au milieu scolaire, universitaire, que ce soit domestique, que ce soit professionnel au milieu de l'apprentissage, c'est toujours les hommes qui ont harcelé les femmes. C'est ce cas-là qu'on a eu. On a toujours dit que l'homme est supérieur à la femme. Tout ce que l'homme dit, la femme doit faire, et les gens sans ça dans tous les faits, dans tous les gestes et dans tous les malheurs, même dans l'harcèlement sexuel.
Mais là n'est pas le pire. Les plaignants ont du mal à aller jusqu'au bout du processus, craignant les représailles de leur entêtement à réclamer justice. Elles sont nombreuses, ces femmes tapies dans l'administration, essuyant les revers du harcèlement sexuel sans avoir le courage de se plaindre, au risque de goûter aux affres du chômage. Elles sont aussi nombreuses, ces étudiantes qui ont dû abandonner l'université pour avoir croisé la route d'un professeur plus harceleur qu'éducateur. Pourtant, il y a une loi qui punit cet acte ignoble.
Le harceleur peut être emprisonné de 1 an jusqu'à 2 ans et avec amende de 100 000 à 1 million. Si maintenant il y a des complices qui ne veulent pas en parler et qui sont décelés après, ou bien qui aident à l'harcèlement sexuel, eux autres, c'est de 50 000 à 500 000 et d'un mois à 1 an.
Au niveau des associations de promotion de la femme, on affûte ses âmes pour que les victimes du harcèlement sexuel sachent qu'elles ont le droit d'être protégées.
Au niveau de nos universités, les étudiants qui sont des démarcheurs de leurs professeurs pour harceler les étudiantes, ils n'ont qu'à savoir qu'ils peuvent démarcher pour les terrains, mais pour plus les fesses. Et ils seront sanctionnés par la loi.
La sanction là même, c'est trop faible. Ça veut dire que s'il y a des hommes qui ont de l'argent, ils peuvent le faire, aller payer. Ils peuvent s'entendre même, parce que quand ils sont en prison, ils font encore la java en prison là-bas. Ce que j'aurais souhaité pour compléter cette loi là, quand cela se fait, il faut prendre l'homme là, aller le mettre sur une place publique et le battre correctement. Comme ça, il y aura une séquelle et ça va ancrer dans sa mémoire. Il va laisser ça une fois pour tout. Sinon, s'il y a toujours de l'argent, il peut continuer.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le président kényan Uhuru Kenyatta et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba ont embrasé samedi 105 tonnes d'ivoire dans le parc national de Nairobi. Lors d'un sommet sur la protection des espèces en danger, M. Kenyatta a appelé à l'interdiction totale du commerce de l'ivoire. Pour Elodie Sempéré, directrice de la réserve Olpejeta, jointe par Nathalie Barge, c'est la seule solution qui permettra de mettre un terme au massacre des éléphants.
Le Kenya, depuis les 2-3 dernières années, a fait beaucoup de progrès au niveau du braconnage, mais c'est quand même une grosse menace, particulièrement sur les rhinocéros. Moi, je travaille pour une réserve dans le nord du Kenya, et dans les 6 derniers mois, on a perdu 5 rhinocéros noirs. Donc, quand vous pensez qu'il n'en reste que 600 au Kenya, c'est quand même énorme. Les éléphants au Kenya, ça va mieux maintenant, mais bon, c'est toujours quand même un gros risque. Hein. Un des plus gros risques au Kenya, plus que le braconnage, c'est la lutte avec les humains, parce qu'il n'y a pas assez de territoire, il n'y a pas assez de place pour les éléphants. Et ils rentrent en conflit avec les humains qui sont à côté, les villageois. Et ça, c'est aussi une grosse menace.
Alors, en ce qui concerne la partie lucrative du braconnage, est-ce que selon vous, les autorités kényanes se donnent vraiment les moyens de l'éradiquer ?
Pour l'éradiquer, il faut arrêter la demande. Et la demande, ça ne vient pas de nous, ça vient de Chine, ça vient du Yémen, ça vient des pays comme ça. Quoi. Donc, ce n'est pas évident pour les autorités du Kenya d'arrêter ça. Ce n'est pas évident du tout. Ce qu'on peut faire, nous, où on est, c'est-à-dire qu'on se bat comme on peut avec les ressources qu'on a. On a des gardes armés au niveau des réserves et des parcs nationaux. On fait ce qu'on peut, mais tant qu'on n'arrêtera pas la demande, on n'arrivera pas à arrêter le braconnage. Ce n'est pas possible.
Selon vous, est-ce que l'interdiction totale du commerce de l'ivoire serait envisageable dans les quelques années à venir, en tout cas sur le continent africain ?
Non, je ne pense pas que ce soit possible parce qu'il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ne seront jamais d'accord. Parce qu'ils pensent, eux, qu'un commerce qu'on arrive à réguler, qu'on arrive à contrôler, c'est mieux que d'arrêter de vendre. Parce que de toute façon, ils ne seront jamais d'accord en Afrique du Sud. Ce n'est pas possible.
Et qu'est-ce que vous pensez des décisions comme celle de la France, tout récemment, justement, en réaction sans doute au sommet, qui a dit qu'elle interdirait tout commerce d'ivoire et qu'elle avait l'intention de le porter au niveau européen? Est-ce que vous pensez finalement que ça aiderait beaucoup si d'autres pays, tels que la Chine par exemple, prenaient les mêmes décisions? Bon, sachant que la Chine en a pris une décision un petit peu dans ce sens, mais ce n'est pas à 100%.
C'est le seul moyen. Si on n'arrête pas la demande, on n'arrêtera pas. Le braconnage, ce n'est pas possible. Tant qu'il y a des gens qui vont acheter l'ivoire et qui payent les prix qu'ils payent maintenant pour l'ivoire et pour les cornes de rhinocéros, nous n'y arriverons pas. Quand vous pensez que les pays comme le Kenya, ce sont des pays pauvres, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école ou pour aller à l'hôpital ou pour aller voir un docteur. Quand les gens qui sont en Chine, ils payent des prix tellement hauts pour l'ivoire et pour les cornes de rhinocéros, que tant que ce ne sera pas supprimé complètement, on n'arrivera pas à gagner la bataille.
C'est la fin de cette édition. Pardon, excusez-moi. C'était Elodie Sempéré, jointe par Nathalie Barge à Nairobi.
Eh bien, merci.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et comme j'avais commencé à le dire, c'est la fin de cette édition. Lionel Ronanira Gaïma était à la mise en onde avec l'assistance technique de Joe Gill à la console. À la présentation, Tatania Mosso et Idrissa Sedoulia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Rendez-vous sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous, vos reportages, vos idées de reportages. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.